Content d'être avec vous. Veuillez garder, je vous encourage à garder 1 Thessaloniciens 2 sous les yeux. C'est le texte qu'on va étudier pour notre temps ensemble. Et vous avez aussi le petit feuillet avec le plan au dos de la prédication et d'où on va aller. Le plan ne sera pas projeté vu que vous avez le feuillet, mais vous avez le feuillet sous les yeux et le texte de la prédication sera affiché par moment. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. On va prier ensemble pour que Dieu œuvre dans nos cœurs par sa parole. Oui, notre Dieu, on reconnaît qu'on a tellement besoin de toi, on est totalement dépendant de toi pour que tu agisses dans nos cœurs. On reconnaît que ta parole est puissante pour nous transformer, nous encourager, nous reprendre, nous amener à marcher d'une manière digne de toi. Et on prie que ça soit encore le cas ce matin, que tu œuvres par ton esprit pour nous montrer combien tu es glorieux, combien tu es bon, combien ça vaut la peine de te suivre, de vivre pour toi. Et je te prie que tu œuvre malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, que tu te serves de moi pour te glorifier, pour que ce soit Jésus qui soit mis à l'honneur et que ce soit pour lui qu'on soit résolu à vivre chaque jour de nos vies. Et c'est en son nom qu'on prie. Amen. Donc on continue notre série de prédications dans le livre de 1 Thessaloniciens qu'on a commencé dimanche dernier. Comme on l'a vu, il s'agit d'une jeune église, c'est super encourageant ce qui se passe là-bas. Et Paul leur écrit pour les encourager à continuer à avancer, à continuer à progresser. On a vu aussi, on a lu Acte 17, on a vu que c'était pas tout rose, qu'il y avait aussi des difficultés, et que c'est une église qui connaît la persécution depuis le tout début, et on voit encore ça dans notre passage aujourd'hui. Et face à ça, et c'est un peu l'arrière-plan du texte de ce matin, face à ça, il y avait le danger pour ces Thessaloniciens, la tentation de remettre en cause l'intégrité de Paul et Silas qui leur ont annoncé l'évangile. Il y avait probablement les Juifs qui étaient jaloux de Paul et Silas, comme on a vu dans Acte 17, ils ont soulevé la foule pour chasser Paul et Silas de la ville, pour les maltraiter. Probablement ces Juifs qui accusent devant les Thessaloniciens Paul et Silas, dans le but de ramener ces chrétiens vers eux. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait plein de prédicateurs ambulants qui venaient pour parler de toutes sortes de choses, de philosophie, de politique, de religion, qui annonçaient toutes sortes de messages. Et au milieu de tout ça, on pouvait se demander, mais comment faire la part des choses? Comment savoir qui a raison et qui a tort? Comment distinguer quelqu'un qui est honnête d'un imposteur? On a reçu une pub cette semaine dans notre boîte aux lettres qui disait ceci, parmi beaucoup d'autres choses. « Pour trouver une solution à vos problèmes à l'aide d'une voyance claire et approfondie, contactez professeur Souleyman. » Travail sérieux, résultat 100% garanti, pas de fausses promesses. Bon là, on voit assez rapidement qu'il s'agit d'une arnaque et qu'on ne va pas suivre ce gars et on met le tract à la poubelle. Mais parfois, c'est un peu plus subtil. Comment savoir qui a raison et qui a tort? Comment savoir à qui on peut faire confiance? Qui est un imposteur et qui ne l'est pas? Et c'est ces questions-là qui sont en arrière-plan de ce passage. Et c'est pour ça qu'on voit que Paul fait appel au souvenir des Thessaloniciens, à ce qu'ils savent. C'est frappant de voir le nombre de fois où c'est répété dans ce passage. Il dit « vous savez » au chapitre 2, verset 1. Au verset 2 encore, il répète la même chose. « comme vous le savez ». On a ça aussi au verset 5, « vous le savez ». Au verset 9, il dit, « vous vous rappelez, frères et sœurs ». Au verset 10, il dit « vous êtes témoins ». Au verset 11, il dit encore « vous savez ». Voilà, il répète ça plein de fois, en gros pour dire « mais souvenez-vous de notre attitude parmi vous. Souvenez-vous de ce que nous avons été parmi vous. C'est la preuve que nous ne sommes pas des imposteurs. » La semaine dernière, en étudiant le chapitre 1, on répondait à la question « mais quelle est la preuve d'une foi authentique ?» Quelle est la preuve d'une foi authentique ? Quelle est la preuve que Dieu est à l'œuvre parmi ses chrétiens ? Et la réponse, si vous vous souvenez, c'était « bah, ça se voit. Ça se voit. On peut voir qu'ils ont une foi authentique. On peut voir que Dieu est à l'œuvre. Pas mieux. Regardez ce que l'annonce de l'évangile a produit chez ces chrétiens. C'est clairement la preuve que Dieu est à l'œuvre parmi eux. Et dans ce chapitre 2, c'est comme si on pouvait se poser la même question. Quelle est la preuve que Dieu est à l'œuvre au travers de Paul et Silas? Quelle est la preuve que c'est Dieu qui agit au travers d'eux, qu'ils ne sont pas des imposteurs? Et là encore, la réponse est la même. Ça se voit. Ça se voit. Pas dans la manière dont les Thessaloniciens ont répondu à l'évangile, mais dans l'attitude des messagers. Ça se voit dans leur attitude qu'ils sont des vrais serviteurs de Dieu, authentiques, véritables, et qu'on peut leur faire confiance. On avait vu la semaine dernière le verset 5 du chapitre 1, où il était écrit que Paul et Silas disaient « Notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. » Et juste après, il dit ceci « Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. En gros, vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous. C'est la preuve que Dieu était à l'œuvre au travers de nous, en nous utilisant. Et c'est pour ça que ce chapitre est vraiment très personnel. Paul livre son cœur, il livre ses émotions, ses sentiments. Et on peut dire que Paul livre ici un modèle du service chrétien pour nous aujourd'hui. Un modèle qu'on peut imiter, comme on l'a vu la semaine dernière, les Thessaloniciens imitaient Paul et Silas. Un modèle qu'on peut imiter pour, à notre tour, bouleverser le monde, comme Paul et Silas l'ont fait. Pas qu'on doive les imiter dans leur rôle d'apôtre de Christ, d'implanteur d'église, non, leur rôle et le rôle de Paul en particulier est unique et on ne peut pas l'imiter dans ce sens-là. Mais on peut apprendre de son attitude en tant que serviteur de l'évangile, de ses motivations, pour que chacun de nous, là où on est dans notre contexte, on puisse servir le Seigneur avec la bonne attitude. Et donc c'est pour ça qu'on va voir ensemble à partir de ce passage trois traits d'un service chrétien authentique, trois traits d'un service chrétien authentique dans les versets 1 à 12, et puis on verra les versets 13 à 16, l'effet que ça a produit chez les Thessaloniciens. Donc premier trait qui nous est révélé ici, que Paul révèle dans son ministère, qui motivait son ministère, c'est la détermination. La détermination. La vie de Paul, c'était un peu comme une série Netflix, il y avait toujours de l'action, mais pas de l'action qui allait forcément dans son sens. En fait, il était toujours en train d'être malmené, maltraité, persécuté, parce qu'il avait encore une nouvelle fois parlé de Jésus. Il parle dans le verset 2 d'avoir souffert, d'avoir été maltraité à Philippe. C'est ce qu'on apprend dans Acte 16, le chapitre juste avant ce qu'on a lu dans Acte 17. Il y a Paul et son équipe qui vont dans la ville de Philippe, en Macédoine. Là, ils rencontrent Lydie, une marchande de pourpre. Ils lui annoncent l'évangile. Elle devient chrétienne. Le Seigneur ouvre son cœur. Elle devient chrétienne. C'est magnifique, c'est merveilleux. Elle se convertit. Et puis, quelques jours plus tard, Paul délivre une jeune esclave qui a un esprit de divination. Et c'est là que les problèmes commencent. Les maîtres de cette esclave, ils s'emparent de Paul et Silas. Ils les traînent sur la place publique. Il y a la foule qui se soulève contre eux, qui font arracher leurs vêtements, qui les font battre à coups de fouet. Et après avoir été roués de coups, ils sont jetés en prison. Leurs pieds sont attachés avec des entraves. Et là, qu'est-ce qu'ils font dans la prison, au milieu de la nuit? Là, bien évidemment, si on connaît Paul, ils sont en train de chanter les louanges de Dieu et de prier. Et puis, ils sont délivrés miraculeusement. Le lendemain, ils peuvent sortir de prison. On leur demande de quitter la ville. Ils quittent la ville, le corps couvert de plaies. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Paul dit à Silas, bon, les vacances à Philippe, ce n'était pas si reposant que ça. Je ne veux pas qu'on se trouve un Airbnb en bord de mer pour prendre quelques jours de repos et puis se reposer avant de continuer. Non, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils vont dans la prochaine ville, la route pour Thessalonique, et ils font la même chose que ce qu'ils ont fait à Philippe. Prêcher l'évangile, être arrêté, être chassé et aller dans la prochaine ville. Détermination. Ils ont un but, prêcher l'évangile, et ils sont prêts à l'accomplir quoi qu'il en coûte. Et on peut se demander, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Comment est-ce qu'ils peuvent continuer à prêcher l'évangile malgré tous les combats? Et Paul nous donne la réponse dans le verset 2. Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. La raison pour laquelle ils sont restés déterminés, c'est qu'ils ont pris, puisé leur assurance en Dieu lui-même, leur force, leur courage pour continuer à avancer malgré les difficultés. Et honnêtement, le courage, la détermination de Paul et Silas, elle peut venir que de Dieu seul. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut donner une telle force, un tel courage, une telle détermination malgré les difficultés. Et donc c'est bien la preuve que Dieu est à l'œuvre au travers d'eux. Il y a une force que Dieu donne pour tenir bon, pour continuer dans le service chrétien, malgré les difficultés. Je pense, en disant ça à mon ami Francesco de France, et je suis tellement encouragé à chaque fois que je le vois, il parle de Jésus à tous ceux qu'il rencontre, il a toujours le sourire, il est toujours joyeux, et il ne peut pas rester 5 minutes sans parler de Jésus. Et peu importe où il est, de manière naturelle, de manière vraiment pertinente, adaptée. Et plus j'ai appris à le connaître, plus j'ai appris aussi sur ce qu'il vivait, sur les épreuves qu'il traversait, et entre autres, parmi d'autres difficultés. Sa femme est non-croyante depuis des années et elle est fort engagée dans une secte assez sérieusement. Et c'est vraiment une épreuve difficile pour lui. Mais je suis frappé de voir comment il continue, comment il persévère malgré les difficultés, avec joie, avec persévérance, en priant pour son épouse, en lui annonçant l'évangile et en continuant à servir le Seigneur dans l'église locale, en dehors, en parlant de Jésus autour de lui. Et je me demande, mais comment est-ce qu'il fait pour rester si joyeux? Comment est-ce qu'il fait pour rester si déterminé dans l'annonce de l'évangile? Bah, comme Paul, il a appris à puiser sa force en Dieu, à avoir une détermination qui vient de Dieu lui-même. Et une telle détermination nous interroge, pas pour nous culpabiliser en nous disant que nous ne sommes pas à la hauteur, mais pour nous demander, mais est-ce que nous sommes déterminés dans le service chrétien ou est-ce que nous sommes en train d'esquiver la difficulté ? Servir le Seigneur, vivre en disciple de Jésus dans ce monde, ça va coûter à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand la difficulté va arriver ? Est-ce que je suis prêt à continuer, même quand c'est difficile, même quand ça me coûte ? Prendre la foi chrétienne au sérieux alors qu'un membre de ma famille y est opposé ? Avoir des positions éthiques différentes de mes collègues et être vu comme quelqu'un d'intolérant ? Avoir un autre but de vie, une autre raison de vivre que mes amis aux études et me sentir un peu à l'écart, un peu délaissé, faire face à leur incompréhension. Mais ça concerne aussi notre service dans l'église locale. Dans cette église locale, on a besoin d'être déterminé, ou alors soit on va jeter l'éponge rapidement, soit on va rester spectateur. Parce que s'engager à servir l'église locale, à servir mes frères et sœurs en Christ, ça va impliquer aimer des gens que parfois j'ai du mal à aimer. Ça va impliquer passer du temps avec des gens avec qui, naturellement, je ne le ferai pas. Faire face à des situations que j'aurais préféré éviter. Quand on va faire face à un problème, on va devoir apporter une solution qu'un frère en Christ, une sœur en Christ nous présente. S'engager dans l'église locale, ça implique parfois la fatigue, le renoncement à des choses légitimes ou de tenir parole pour aider, même si on n'a pas forcément envie ce jour-là. On a besoin d'être déterminé pour réagir de la bonne manière à la difficulté. On a besoin d'être convaincu que c'est Dieu qui qu'on sert et on a besoin de puiser notre force en lui. Détermination. Mais le deuxième trait d'un service authentique que Paul nous livre ici, c'est la fidélité, dans les versets 3 à 6, la fidélité. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la manière dont Paul décrit le message qu'il annonce dans ces versets. Il dit à plusieurs reprises que c'est l'évangile de Dieu. Il dit ça pas juste une seule fois, mais il dit ça au verset 2, annoncer l'évangile de Dieu. Encore au verset 8, la même chose, l'évangile de Dieu. Et encore au verset 9, l'évangile de Dieu. Et ce qui est frappant, c'est qu'ailleurs, dans cette lettre, dans Thessaloniciens, il ne décrit pas l'évangile comme ça. Il parle soit de l'évangile de Christ, soit de notre évangile. Mais dans ce passage en particulier, précisément, il veut dire que c'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile qui appartient à Dieu. Le message qu'il annonce ne vient pas de lui, mais vient de Dieu lui-même. Et c'est ce qu'il souligne au verset 4. « Comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. » C'est Dieu qui lui a confié un message à transmettre. Et donc, il ne fait pas n'importe quoi avec ce message que Dieu lui a confié. C'est Dieu lui-même qui lui a donné ce message. Chez nous, on a pas mal de meubles et d'affaires qu'une amie nous a prêtés avant qu'elle parte dans un pays pendant une période indéterminée. Elle nous a donné plein de meubles, d'assiettes, de couverts, etc. Et pour la plupart des choses, elle nous a dit « bon, ça, c'est pas grave, vous pouvez l'abîmer, vous pouvez vivre avec, il n'y a pas de souci. » Mais elle nous a aussi prêté un grand meuble de salon en bois, très précieux, qui appartient à sa famille, elle le tient de sa grand-mère. Et elle nous a dit « mais vous pouvez tout abîmer, sauf ça. Ça, j'y tiens. » Et donc, ça nous met beaucoup de pression, on ne fait pas n'importe quoi avec. On ne va pas manger sur ce meuble en bois, on ne va pas mettre des verres avec de l'eau. On en prend vraiment soin parce que c'est son meuble, c'est précieux pour elle, ça lui appartient. Et c'est la même chose pour Paul avec l'évangile. Cet évangile vient de Dieu lui-même, on ne va pas faire n'importe quoi avec. Le rôle de Paul et le nôtre, c'est de transmettre cet évangile fidèlement, sans le modifier. Le message de l'évangile, ce n'est pas comme un brouillon qui aurait besoin d'être corrigé, d'être adapté, d'être révisé avant d'être partagé. Non, on l'annonce tel quel, tel qu'on l'a reçu. Et si c'est important à souligner, c'est parce que le danger est là. Au verset 4, Paul parle du danger de plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Il y a un réel danger de changer certains éléments du message qui pourraient ne pas plaire aux gens. Mais en faisant ça, on ne serait plus en train de plaire à Dieu, à qui appartient ce message. Alors ce verset ne veut pas dire forcément qu'on doit forcément ne pas plaire aux hommes, que l'on doit chercher à être détesté de tous, persécuté, rejeté, et forcément dire des choses qui sont à contre-courant. Non, parfois les chrétiens ont un peu trop facilement le syndrome du martyr en se disant « Ah mais tout le monde est contre moi, personne m'aime ». Non, parfois on est rejeté parce que notre manière de parler est mauvaise, parce que notre comportement est arrogant, parce qu'on n'aime pas sincèrement ceux à qui on parle. Et c'est jamais notre manière de parler qui doit être un obstacle, qui doit ne pas plaire aux hommes. Ici, il est question du message. Et ce que ça signifie, c'est qu'on doit être prêt à annoncer ce message fidèlement, quoi qu'il en coûte, pour plaire à Dieu ultimement. Prêt à plaire à Dieu même si ça ne plaît pas aux hommes. Même si ça nous vaut d'aller à contre-courant, de dire des choses qui ne sont pas facilement acceptées. Et soyons honnêtes, si on est clair, si on est explicite sur le contenu du message chrétien, il y a forcément des moments où on va être amené à dire des choses qui ne vont pas plaire. Parce que le cœur du message chrétien déclare que l'être humain est pécheur, que l'être humain est coupable d'avoir rejeté, d'avoir offensé Dieu. Et qu'en conséquence, chaque être humain sur cette terre mérite un jugement, un châtiment éternel que la Bible appelle l'enfer. Et que le seul moyen d'échapper à cette colère à venir, c'est de se détourner de ses fautes, de se repentir et de se tourner vers Jésus, de placer sa confiance en Jésus pour être pardonné de ses péchés, de reconnaître l'autorité de Jésus sur nos vies. Ben ça, ce n'est pas super agréable à entendre, mais c'est essentiel. C'est essentiel. Et c'est vrai que c'est dur d'avoir le courage de dire à un ami dont on est proche, à un membre de notre famille, qu'on apprécie, qui nous aime, tu es pécheur et tu dois te repentir avant qu'il soit trop tard. Mais cacher volontairement cet aspect du message chrétien, ce serait chercher à plaire aux hommes plutôt qu'à plaire à Dieu. Je me souviens d'un ami très proche que j'avais au lycée, donc le secondaire en France. Je venais de me convertir, je venais de devenir chrétien. On a passé une année ensemble et on a eu plein d'occasions de parler de la foi chrétienne, on a eu plein d'occasions de parler de la Bible de manière générale. Mais à la fin de l'année, je me suis fait la réflexion, mais on a très peu parlé du message du salut. On a très peu parlé de son besoin d'être sauvé, de son besoin de se repentir, de l'urgence qu'il y a face à ce message. Parce qu'au fond de moi, je savais que c'était difficile à dire. J'avais peur de parler de ça, j'avais peur de perdre une amitié, j'avais peur qu'il me voie comme quelqu'un d'arriéré, qui vient d'une autre planète, qui ne l'aime pas vraiment. Et du coup, je me suis tué et je n'ai pas parlé. Et je me suis repris à la fin de l'année, je me suis dit, mais non, mais c'est pas une bonne chose de faire ça. Et je me suis même questionné, je me suis dit, mais est-ce que je sais vraiment quel est le message que j'ai annoncé, le message de l'évangile? Est-ce que je connais le contenu de l'évangile? Donc je me suis mis à faire plein de schémas, écrire des trucs, chercher dans la Bible pour voir, mais c'est quoi l'évangile? C'est quoi qu'on doit annoncer aux gens? Et puis j'ai pu après, en tremblant, aller lui parler et lui partager son besoin d'être sauvé, de se positionner face à Christ. C'est pas facile, c'est difficile, mais ça vaut le coup de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais dans ce texte, on voit que c'est pas juste qu'il faut être fidèle au message, c'est pas juste qu'il faut annoncer la vérité, même s'il faut le faire, mais c'est aussi qu'il faut être fidèle sur la manière de le faire. Il faut être fidèle sur les motivations qui vont nous pousser à le faire. Je lisais une citation de quelqu'un qui disait cette semaine, « La vérité ne peut être servie sur l'assiette du mensonge et de la ruse. » La vérité ne peut être servie sur l'assiette du mensonge et de la ruse. C'est pour ça que Paul écrit les versets 5 et 6. Il dit « Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. » C'est facile pour un leader spirituel de faire ce qu'il fait pour avoir la gloire des hommes, pour être mis en avant, pour être sur le podium. Mais ce n'était pas la motivation de Paul. Il ne cherchait pas à utiliser les Thessaloniciens comme un moyen d'enrichir son CV, de gagner du prestige, de gagner des convertis, d'avoir des chiffres, d'augmenter sa réputation de serviteur de Dieu. Il ne cherchait pas non plus à utiliser les Thessaloniciens comme un moyen de s'enrichir. Il n'avait pas, il dit, la cupidité pour mobile, pour motif, ce n'est pas ça qui le motivait. Il faut dire que ce point-là est vraiment pertinent avec le développement de l'évangile de la prospérité. Des soi-disant pasteurs ou enseignants qui disent que le fait de devenir chrétien va garantir la richesse, va garantir le succès, aucune épreuve, aucune difficulté dans ta vie. Et qui utilisent leurs fidèles comme un moyen de s'enrichir. C'est tout le temps eux qui sont les mieux habillés, c'est tout le temps eux qui roulent dans les meilleures voitures. Et c'est tout le temps eux qui cherchent à s'enrichir encore plus. Je disais cette semaine d'un pasteur qui prêchait fidèlement la Bible dans une église et qui a été viré par son église parce qu'il n'était pas assez bien habillé, parce qu'il ne roulait pas dans une voiture assez belle. Et les pasteurs avant dans cette église avaient enseigné l'église que c'était ça la marque d'un serviteur authentique de Dieu. Il devait avoir des beaux habits, il devait avoir une belle voiture. Sinon, ce n'est pas crédible. Mais c'est triste, c'est triste. Et peut-être qu'on se dit, on est loin de ce danger-là, l'idée de faire ça, de chercher à faire les choses avec ruse, avec cupidité pour gagner de l'argent. Peut-être qu'on est loin de ça et merci Seigneur et restons fidèles là-dessus. Mais je pense que cette idée de servir la vérité sur l'assiette de la ruse nous concerne nous aussi dans nos milieux évangéliques. Qu'en est-il du danger de vouloir convertir les autres, amener à prendre une décision en jouant avec les émotions des gens, en mettant une belle musique de fond, bien triste, à la fin d'une réunion d'évangélisation, pour pousser les gens à la décision? Je me souviens de camp jeune où j'étais impliqué il y a quelques années, où avec des amis, on s'est rendu compte de ça, que c'était vraiment une mauvaise manière de faire, la manière dont c'était fait. Il y avait un moment spécial dans la semaine où on partageait l'évangile, c'était le soir assez tard, quand les jeunes étaient vraiment fatigués. Il y avait une présentation de l'évangile, ce n'était pas vraiment explicite sur l'évangile, mais on mettait surtout en avant les souffrances physiques de Christ, pour pousser les émotions, pour pousser la compassion. Puis on parlait de l'enfer comme un moyen d'avoir peur, il faut prendre une décision, sinon il y a l'enfer, et on utilisait ça comme un moyen de contrôler. Et puis à la fin, il y avait une musique un peu triste, on priait, on invitait les gens à s'avancer. J'ai eu l'occasion de parler avec ces responsables, et je ne doute pas qu'ils avaient de bonnes intentions, mais c'est juste pour montrer que c'est subtil. On peut vite arriver là et faire les choses avec ruse, annoncer des choses qui sont vraies, des choses qui sont bonnes, mais avec sur l'assiette de la ruse, et ce n'est pas une bonne chose. La fidélité, non seulement dans le message qu'on annonce, mais aussi dans la manière d'annoncer le message. Le troisième trait d'un service authentique que Paul met en avant dans ces versets, c'est le dévouement, dans les versets 7 à 12. L'attitude de Paul, quand on lit ces versets, on voit qu'elle était loin de celle de s'enrichir, de celle de chercher la gloire. Et plutôt que d'utiliser les Thessaloniciens comme un moyen de gagner quelque chose, un moyen de s'enrichir, de chercher la gloire, ben on voit qu'il était plutôt question pour Paul de se donner lui-même, d'un amour sincère, d'un amour désintéressé. Et on le voit avec les deux images que Paul utilise ici pour décrire son ministère et celui de Silas. Ils ont été à la fois comme un père et comme une mère pour les Thessaloniciens. Regardez les versets 7 et 8. Il dit « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Ils ont eu la tendresse et l'abnégation d'une mère. Leur service, ce n'était pas un projet parmi d'autres, un travail banal, quelque chose qu'ils faisaient juste parce qu'ils devaient le faire. Non, ça provenait d'un amour sincère pour les Thessaloniciens. Ils étaient prêts à tout pour eux, même à se donner eux-mêmes. Et là, on peut facilement imaginer l'amour qu'une mère a pour ses enfants, comment elle est prête à tout pour eux, comment elle vit sa vie de tous les jours à la lumière de leur bien-être, comment elle met leur bien-être avant son bien-être, comment elle met leur sommeil avant son sommeil, le fait qu'ils mangent, qu'ils aient assez à manger avant le fait qu'elle ait assez à manger elle-même. L'abnégation, la tendresse d'une mère, elle se sacrifie pour eux. Et c'est le même type d'amour que Paul avait pour les Thessaloniciens. Et c'est le même type d'amour que nous, on est appelés à avoir. On n'est pas appelés à être comme les personnes qui vous appellent au téléphone pour vous vendre des trucs. Vous savez, ils vous appellent, mais ils n'en ont rien à faire de vous. Ce n'est pas leur faute, c'est leur travail, mais ils n'en ont vraiment rien à faire de vous. Cette semaine, on m'a appelé pour une pub et on commence en disant « Monsieur Egen ». Alors je corrige, je dis « Non, c'est Monsieur Egen ». Et la dame m'a juste même pas écouté, elle a continué. « Alors Monsieur Egen, je voulais vous dire que c'est juste parce que bah, ce n'est pas sa faute, mais ils n'ont pas d'intérêt en vous. » Il n'y a pas une relation personnelle, il n'y a pas un amour sincère, c'est juste un message qu'ils veulent transmettre. Et ce n'est pas ce type d'attitude qu'on est appelé à avoir dans notre ministère. Ou envers ceux dans l'Église, en dehors de l'Église, on ne parle pas juste à des projets sans nous soucier d'eux, juste pour faire passer un message. Mais on parle à des individus qu'on est appelé à aimer, à qui on est appelé à s'intéresser d'un amour sincère. Et c'est pour ça que ce serait tellement triste et tellement inapproprié de réduire la vie d'église à juste 5 minutes de conversation après le culte le dimanche, à un engagement formel, même régulier, mais qui se contente de voir les choses de l'extérieur sans s'engager réellement. Paul, il connaissait pas ça. Ce serait comme une mère qui dirait à son enfant, « Bon, aujourd'hui, je t'accorde juste 5 minutes pour prendre soin de toi, et après, le reste, c'est pour moi. Ensuite, on laisse tomber. » Non, vive l'église locale, aimer nos frères et sœurs, les servir, les aider à grandir, ça va nous coûter. Ça va être difficile, ça va nous demander un dévouement particulier, un amour sincère, du temps, des efforts et d'apprendre à aimer, quoi qu'il en coûte. Et c'est seulement possible si, comme Paul, on est prêt à se donner nous-mêmes et à pas juste voir les gens comme des projets lointains. Mais Paul utilise une autre image aussi ici, celle de l'encouragement d'un père envers ses enfants. Il dit au verset 11, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Paul montre ici indirectement le rôle de chaque père. Donc pour ceux qui sont pères, vous pouvez voir ça par vous-même. Exhorter, consoler ses enfants, mais aussi les adjurer à vivre de la bonne manière. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait pour ces Thessaloniciens. Ils aimaient les Thessaloniciens par-dessus tout. Ce qu'ils cherchaient par-dessus tout, c'était le bien-être spirituel des Thessaloniciens. Et donc, ils étaient prêts à les adjurer. C'est un mot assez fort, assez direct. Ça veut dire leur dire, pas ce qu'ils avaient envie d'entendre, mais ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Ah, c'est pas facile à faire et à recevoir, ça. C'est pas facile à recevoir parce que, naturellement, on réagit avec orgueil, mais comment est-ce que lui, il ose me dire ça? Qui il est pour me dire comment je dois vivre dans tel ou tel domaine? On a une vision assez égoïste de la foi. C'est moi qui décide mes choix, c'est moi qui sais ce qui est le mieux à faire, c'est ma vie privée et personne ne peut rentrer dans cette vie privée. Mais on a besoin de s'entourer de frères et sœurs, d'amis précieux, qui oseront nous dire ce qui n'est pas facile à entendre, ce qu'on a besoin d'entendre, qui ont du recul dans notre vie, sur notre vie, qui nous voient vivre et qui voient les dangers auxquels on peut faire face. Et ce n'est pas non plus facile à dire ce genre de choses, d'adjurer les personnes. D'abord parce qu'on peut avoir peur de blesser la personne, de la décourager, ou alors de se tromper dans l'encouragement qu'on veut donner, de réaliser qu'on est nous-mêmes imparfaits. Qui est-ce qu'on est pour dire ça? On a besoin chacun de nous de ce genre de choses, de ce genre d'amis précieux pour marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous a appelés à son royaume et à sa gloire. Je vous ai parlé la semaine dernière de mon ami Greg. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas en parler chaque semaine, mais je l'ai appelé cette semaine parce que j'ai pensé à lui avec la prédication de la semaine dernière et on s'est appelé, c'était super encourageant. Et il m'a posé des questions très directes sur ma vie avec le Seigneur, sur des domaines particuliers de ma vie, sur des luttes que j'ai. Il m'a posé des questions très directes et personnelles. Et ce n'est pas facile parce que naturellement, mon ego réagit en disant « Mais oula, qu'est-ce que tu fais là? N'ouvre pas ce tiroir, c'est ma vie privée, ça ne te concerne pas. Viens pas toucher à ce truc-là. » Mais en fait, c'est une bonne chose et je suis reconnaissant qu'il puisse faire ça. Parce que je sais qu'il cherche mon bien-être spirituel, je le connais, je sais qu'il cherche à plaire à Dieu. Alors je peux réagir la bonne manière et je peux m'examiner moi-même et je peux être encouragé par lui dans différents domaines de ma vie. Et je sais qu'il dit ça comme un encouragement pour me faire avancer dans ma vie avec le Seigneur. Paul et Silas avaient un tel dévouement pour les Thessaloniciens qu'ils étaient prêts à leur dire ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Ils étaient prêts à être un père pour eux et avoir la tendresse d'une mère. Ces chrétiens, ce n'était pas juste un projet sur leur liste de tâches, mais des personnes qu'ils aimaient et à qui ils voulaient se donner. Et maintenant qu'on a vu ces trois traits d'un service authentique que Paul met en avant, le modèle dans un sens d'un service chrétien, juste pour terminer, on a les versets 13 à 16 qui parlent de la réponse des Thessaloniciens et on va aller assez rapidement là-dessus, c'est juste que ça conclut dans un sens ce passage et ça fait écho à tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Il utilise des mots assez similaires à ce qu'il a déjà dit au chapitre 1, Paul remercie Dieu parce qu'il sait que sa bonne attitude toute seule ne suffit pas, il sait que son œuvre toute seule ne suffit pas. Il sait que Dieu est le vrai héros de ce chapitre 2, c'est lui qui a été à l'œuvre et qui est l'auteur de tout ce qui s'est passé dans la vie des Thessaloniciens. Il dit au verset 13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Comme on l'a vu la semaine dernière, quand les Thessaloniciens ont entendu Paul et Silas leur annoncer l'Évangile, ils ne l'ont pas pris comme un discours humain parmi d'autres, comme le message d'un autre imposteur parmi tant d'autres qui essaye de se vendre un produit ou de se vendre lui-même. Non, ils ont reçu ça tel que c'était vraiment. La parole de Dieu qui a agi puissamment dans leur cœur, qui a produit du fruit dans leur vie. Et ces versets, ils nous aident à saisir, à comprendre la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas un message fade, vide, sans force, mais c'est quelque chose de puissant. Hébreux 4 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et on peut tous se souvenir, je pense, de moments où la parole a percé nos cœurs, nous a convaincus de péché, nous a mis face à la grandeur, à la gloire de Dieu, à la beauté de l'Évangile. On a vu la puissance de cette parole agir dans nos cœurs. Et on voit aussi dans ce verset le lien qu'il y a entre l'œuvre de cette parole dans nos cœurs et la foi. Il est question de la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Bien sûr, Dieu n'est pas limité par notre foi, mais c'est alors que nous plaçons notre foi en lui, en la puissance de cette parole, que cette parole agit dans nos cœurs et produit du fruit dans nos vies. Et ça nous aide peut-être à reconsidérer la manière dont on voit la Bible, l'attitude que l'on a quand on ouvre la Bible, que ce soit dans des moments personnels ou à l'église. Est-ce qu'on l'ouvre comme un rituel religieux, juste parce qu'on doit le faire sans grande attente? Ou est-ce qu'on ouvre la Bible en s'attendant à ce que Dieu nous parle et en priant pour que Dieu utilise sa parole afin d'agir puissamment dans nos cœurs, que cette parole de Dieu produise du fruit dans nos vies? L'un des fruits que ça a produit chez les Thessaloniciens, et on a vu ça la semaine dernière, c'est, on le revoit ici dans ce verset 14, c'est que malgré les difficultés, ils ont persévéré. Et Paul termine ce passage, on pourrait peut-être dire de manière un peu surprenante, en changeant brusquement de ton, de sujet, et en parlant directement des Juifs à partir du verset 15. Mais ce n'est pas comme un cheveu sur la soupe, comme si Paul s'emportait, ou comme s'il était antisémite ou quoi que ce soit, mais c'est Paul vraiment qui boucle la boucle de tout ce qu'il a dit jusqu'ici dans Thessaloniciens. On a dit que ces chrétiens étaient probablement tentés par les Juifs de ne pas écouter Paul. C'était les Juifs qui, dans Actes 17, ont fait cette révolte, qui avaient soulevé la ville contre Paul et Silas, et ils étaient jaloux de Paul et Silas, ils essayaient de les discréditer en tant que serviteurs de Dieu, et c'est pour ça que Paul écrit en mettant en avant l'attitude qu'il a eue, en rappelant les Thessaloniciens, mais souvenez-vous de comment on a été, c'est la preuve qu'on n'est pas des imposteurs. Mais en plus de faire cela, Paul donne un argument supplémentaire aux Thessaloniciens, qui leur montre que ce serait vraiment insensé d'écouter ces Juifs qui voulaient les ramener vers eux. L'argument, c'est le suivant. Ce sont ces Juifs qui persécutent les églises de Dieu. Alors pourquoi est-ce que vous voudriez les écouter? Et non seulement ça, mais c'est aussi ces Juifs qui ont tué les prophètes et qui ont tué le Seigneur Jésus lui-même. Ce serait insensé de les écouter. Et non seulement ça, mais ils s'opposent à tous les êtres humains parce qu'ils nous empêchent de partager l'Évangile, de partager le message qui peut sauver ces êtres humains. Ce serait insensé de les écouter. Et donc Paul veut leur dire dans ce passage, plutôt restez accrochés au Seigneur, et c'est ce qu'il dit dans toute cette lettre, continuez à avancer, vous êtes sur la bonne voie, c'est encourageant, Dieu est à l'œuvre parmi vous. Et donc si nous aussi, nous voulons bouleverser le monde, comme Paul et Silas l'ont fait, on a besoin de s'attacher au modèle d'un service authentique, détermination, fidélité, dévouement. On a besoin de s'attacher à cette parole de Dieu puissante qui agit dans les cœurs. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons bouleverser le monde, c'est la parole de Dieu qui agit puissamment dans les cœurs, qui produit du fruit dans les vies. C'est Dieu qui est à l'œuvre par-dessus tout. Et on a besoin d'être attaché par-dessus tout au message de la grâce de Dieu, au message que Paul annonçait, de Christ mort et ressuscité pour nous. C'est lui qui a payé à notre place, c'est lui qui nous a pardonné de tous nos péchés. C'est pour lui qu'on veut vivre, c'est lui qui est notre rédempteur adorable, comme on l'a chanté. Et c'est lui qu'on a le privilège de servir et d'annoncer à ce monde qui en a tant besoin. Prions ensemble pour terminer.